Open Blues.
Bonjour, bonjour et merci de nous retrouver pour l'émission Open Blues. Je suis Alain sur Oxy Web Radio et je vous invite à poursuivre l'étude des albums importants parus entre 1965 et 1975, tous inspirés fortement du blues.
Album exceptionnel, mesure exceptionnelle, enfin quand c'est possible. Donc le moins de mots possible aujourd'hui et de jingle pour pouvoir écouter tous les morceaux de l'album qui 47 ans après leur sortie restent encore actuels et toujours écouté. Led Zeppelin, d'abord, c'est un groupe de rock britannique, évidemment, fondé en 1968 par Jimmy Page à la guitare, Robert Plant au chant, John Paul Jones à la basse et au clavier, et enfin John Bonham à la batterie. Il fut dissous suite au décès de John Bonham en 1980. À travers un son dominé par des riffs de guitare et une rythmique particulièrement lourde, Led Zeppelin est considéré comme l'un des premiers groupes de hard rock et également vu comme l'un des pionniers du heavy metal. Près de 30 ans après sa séparation, Led Zeppelin reste un mythe. Le groupe a vendu plus de 300 millions de disques à travers le monde, dont 111 millions aux États-Unis. Et donc ce Led Zeppelin 4, enregistré entre décembre 1970 et février 1971, puis diffusé en novembre 71 suite à un remixage survenu en juillet 71. L'album donc, dont la couverture devait inciter les auditeurs à s'occuper de la Terre, avec un tableau trouvé chez un antiquaire placé sur un mur d'une maison en cours de démolition et près d'une tour moderne sinistre, et ainsi que la calligraphie utilisée sur la pochette intérieure pour donner les paroles de Stairway to Heaven. Bref, tout a été calculé et mis au point par Jimmy Page, qui fut grandement aidé par Robert Plant. Jusqu'au nom de l'album, représenté par quatre symboles, un par musicien, que chacun a choisi, et qui restera par la suite de l'identification du groupe. L'album débute avec Black Dog, qui est construit autour d'une dynamique d'appel et de réponse entre le chanteur et le reste du groupe, avec ses débuts et arrêts a cappella inspirés de la chanson Oh Well de Fleetwood Mac, sortie en 1969. Le titre est une référence à un Labrador Retriever, un Golden Retriever si vous voulez aussi, qui n'a pas de nom et qui a erré dans les studios Headley Grange, où le groupe s'est retiré, c'est à la campagne, pendant l'enregistrement. John Paul Jones, à qui est attribué le riff principal, a été inspiré par le controversé album de Muddy Waters, Electric Mud, publié en 1968. Il a ajouté un riff et des changements de rythme complexes. Black Dog est sorti en single aux États-Unis, ainsi qu'en Australie, avec Misty Mountain Hop, un morceau qu'on étudiera plus tard, en face B. Et le succès a été immédiat. Le groupe a eu des difficultés avec les reprises de batterie qu'on entend dans le morceau, mais la solution pour John Bonham a consisté à jouer à fond comme si aucune reprise n'avait lieu. Dans ses parties de guitare, Jimmy Page a utilisé une Gibson Les Paul pour enregistrer plusieurs vocals qui seront donc ajoutés au mixage final. Black Dog est devenu un des morceaux favoris des fans de Led Zeppelin lors des concerts par la suite.
Stay. Hey, baby,
C'était Black Dog par Led Zeppelin sur Oxy Web Radio.
Le deuxième morceau, Rock'n'Roll, porte bien son nom car il est bien basé sur l'une des structures les plus populaires du rock, à savoir la chanson à trois accords. Elle est exécutée dans la clé de Do, ou A pour les Britanniques, sur un tempo de 170 battements par minute, ce qui est colossal. La chanson comprend une partie jouée par le pianiste Ian Stewart, des Rolling Stones, oui, le fameux, celui qui était pas beau pour rester dans le groupe des Rolling Stones. Et en 1972, Robert Glasgow l'a appelée tout simplement la chanson hard rock la plus dynamique de la musique. Fidèle à son titre, la chanson résultait d'une jam session spontanée, alors que le groupe tentait, et échouait jusque-là, à terminer le morceau Four Stick, qu'on écoutera aussi tout à l'heure, au manoir Headley Grange, loué à Hampshire, en Angleterre, pour enregistrer le disque. John Bonham a commencé par jouer l'introduction de batterie, en s'inspirant de la chanson de Little Richard, Keep a Knocking, à laquelle Page ajouta un riff de guitare, plutôt du style Chuck Berry. Les enregistrements se déroulaient tranquillement, et 15 minutes plus tard, la base de la chanson était complétée. Rock'n'Roll était un élément clé de la setlist du groupe lors des concerts de Led Zeppelin à partir de 1971. Il est sûr que lorsqu'on découvrit cette chanson, dès la première écoute du volume 4, on comprit que Led Zeppelin allait repousser très loin l'interprétation du banal rock'n'roll. Et désormais, cette chanson est inaltérable et pour moi reste adulée.
Yeah.
C'était donc l'explosif rock'n'roll par Led Zeppelin sur Roxy Web Radio. Pour ceux qui découvrent l'album et les chansons qui viennent de passer, je vous propose un moment de répit avec The Battle Evermore, une des chansons que je tenais à passer aujourd'hui, qui est fondée sur le duo vocal composé incidemment par Robert Plant et Sandy Deddy. L'instrumentation de la chanson comprend une guitare acoustique et un jeu de mandoline, ce qui, vu les deux premiers morceaux que l'on a entendus, surprit quand même tout le monde. La chanson a été écrite par Jimmy Page à L.A. Grange, dans le studio donc, alors qu'il expérimentait la mandoline de John Paul Jones, le bassiste, et Jimmy Page a expliqué en 1977 que The Battle of Evermore, la bataille de toujours si vous préférez, avait été inventée sur place par Robert Plant, et lui-même. En fait, comme il dit, je venais de prendre la mandoline de John Paul Jones, et n'ayant jamais joué de cet instrument, eh bien j'ai juste chercher à appliquer des accords que je connaissais et qui me paraissaient pouvoir sortir avec ce nouvel instrument pour moi. La chanson, comme quelques autres du groupe par la suite, fait référence au Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, le roman. Plant a estimé qu'il avait besoin d'une autre voix pour raconter l'histoire et pour l'enregistrement de la chanson. Aussi, connaissait la chanteuse Sandy Deddy, une chanteuse folk, qui faisait partie du groupe britannique Fairport Convention, et il a invité donc à faire le duo avec lui. Sandy Deddy était donc venu et avait connu Led Zeppelin, car ils avaient partagé la scène en 1970 au festival de Bath, interprétant du blues et de la musique progressive ensemble. Et pour la remercier de son implication, Sandy Deddy eut droit, elle aussi, comme les autres membres du groupe, à son symbole calligraphique sur la pochette, et qui était représenté de trois triangles assemblés. C'est la seule chanson que Led Zeppelin n'aura jamais enregistrée avec un chanteur invité.
Straight to them before.
No comfort, yes, the fire.
is shining, the clouds are blue, oh why? With flames from the dragon of darkness, some light finds his
C'était The Battle for Evermore par Led Zeppelin sur Oxy Web Radio. Et je suis ravi d'avoir pu rendre hommage à Sandy Denny, malheureusement disparu peu de temps après d'ailleurs la réalisation de cet album, d'une bête chute d'escalier alors qu'elle était enceinte en plus. Et voici venir Stairway to Heaven, certainement la chanson la plus connue de l'album, celle qui a dépassé largement le cadre habituel des auditeurs de la musique de Led Zeppelin. Elle a été principalement écrite par Jimmy Page et l'essentiel de la séquence d'accords était déjà défini lorsque l'enregistrement a commencé au studio Basing Street. Les paroles ont été écrites par Robert Plant, par contre à Ed Grange, à propos d'une femme qui a tout pris sans rien rendre. Et la prise finale de la chanson a donc été enregistrée à Helen Studio après la session qui est la session principale dont je parlais à Hedley Grange. L'ensemble du groupe a contribué à l'arrangement, comme John Paul Jones qui jouait des enregistreurs lors de l'introduction et l'entrée de batterie distincte de John Bonham qui survient au milieu de la chanson. Et Jimmy Page joua le solo de guitare avec une Fender Telecaster qui était en fait un cadeau de Jeff Beck. Il a écrit 3 solos différents et a choisi finalement le meilleur des 3 pour l'album une fois qu'il a tout enregistré. La chanson était la chanson phare donc de l'album et fut fréquemment diffusée par les stations de radio FM à l'époque. Mais le groupe a résisté à toutes les suggestions pour la sortir en single, ce qui obligea finalement tout le monde à acheter l'album pour pouvoir en disposer. Et ce fut une belle technique marchande. Elle est devenue la pièce maîtresse du set live du groupe à partir de 1971. Et afin de reproduire les changements entre les différentes guitares acoustiques, électriques et à 12 cordes, en fait, il a utilisé une guitare à double manche, une guitare Gibson EDS 1275 pour les connaisseurs, qu'il utilisait systématiquement sur scène. Elle est souvent considérée, cette chanson, comme l'une des plus grandes chansons rock de tous les temps. Elle comporte 3 sections, chacune augmentant progressivement le tempo et le volume. Stairway to Heaven est décrite comme l'assemblage du rock progressif, folk, rock et hard rock. On pourrait parler indéfiniment de cette chanson mythique, créée par des jeunes gens qui, je rappelle, à l'époque avaient entre 22 et 25 ans. Mais enfin, le mieux est de les écouter. Thank you.
All it glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts
C'était Stairway to Heaven, c'était l'escalier vers le paradis, par Led Zeppelin sur Oxy Web Radio. À l'époque des 33 tours, on tournait le disque pour découvrir sur la deuxième face Misty Mountain Hop, qui a été écrite à Edley Grange également et met en vedette John Paul Jones au piano électrique. Robert Plant a écrit les paroles pour expliquer le conflit entre les étudiants et la police pour la possession de drogue. Et ce titre s'inspire encore de J.R.R. Tolkien, de Bilbo le Hobbit pour être plus précis. La traduction la plus courante du titre de la chanson implique une référence au mont brumeux dans Bilbo du Hobbit. Les paroles font en fait référence aux événements du Legalize Pot Rally du 7 juillet 1968 à Hyde Park à Londres, au cours desquels la police arrêta les possesseurs de marijuana. Les paroles reflètent la quête de Robert Plant pour une société meilleure, un lieu et un moment où les blocages sont remplacés par la liberté individuelle et une vie de soutien réciproque. Misty Mountain Hop fut donc la phase B de Black Dog, nous avons écouté tout à l'heure. Elle a été enregistrée à Edley Grange. Et pour parler de cet hôtel particulier situé dans le Hampshire, en Angleterre, où le groupe vivrait parfois, ce choix découlait du fait que la volonté de Jimmy Page de mettre son groupe à l'écart de toutes les tentations du centre-ville. Pour revenir à la chanson, par la suite, Robert Plant a interprété cette chanson lors de tournées effectuées quand il a démarré sa carrière solo. À titre personnel, je trouve l'intro particulièrement intéressante. En effet, à l'époque des riffs de guitare roi, l'utilisation originale du piano prouva, s'il en était besoin, la puissance du piano, bien sûr, même dans un morceau éminemment hard rock.
Oh,
C'était Misty Mountain Up par Led Zeppelin sur Oxy Web Radio. Le morceau suivant, Four Sticks, tire son titre du jeu de John Bonham, jouant le motif de batterie sur la chanson, avec deux fois deux baguettes dans chaque main. La piste fut difficile à enregistrer par rapport au reste de l'album, nécessitant de nombreuses prises. Elle a été jouée sur scène qu'une seule fois par Led Zeppelin et a été réenregistrée avec le Bombay Symphony Orchestra en 1972. Elle a été retravaillée également pour l'album de Jimmy Page et Robert Plant, paru en 1974 et intitulé No Quarter, Jimmy Page and Robert Plant Unleaded. Four Sticks reflète avant tout la performance du batteur John Bonham avec deux sets de baguettes, comme je le disais, dans chaque main. La chanson était difficile à enregistrer et nécessitait plus de prises que d'habitude. John Paul Jones a joué au synthétiseur VCS3 sur la piste et la chanson a une signature de temps inhabituelle comportant des riffs dans un mélange de 5 huitièmes et 6 huitièmes. C'est ce qui donne, à mon avis, le cachet principal sur cette chanson au rythme un peu bizarre. Un seul spectacle live a été identifié comportant cette chanson, je disais, ce fut à Copenhague lors de leur tournée européenne de 1971. Elle a été préservée sur certains enregistrements pirates. La complexité d'interprétation et les limites de l'intérêt musical expliquent l'abandon sur scène de ce morceau. Il existe des versions, évidemment, qui circulent sous le manteau, d'autres versions enregistrées en fait par Led Zeppelin, mais qui n'a jamais jugé utile de sortir en disque.
Get
C'était Four Sticks, ou Quatre Baguettes si vous préférez, par Led Zeppelin sur Oxy Web Radio.
Spend my days with a woman and kind, smoke my stuff and drink all my wine.
La chanson suivante s'appelle Going to California. C'est un numéro acoustique, discret. Il a été écrit par Jimmy Page et Robert Plant sur le suite au tremblement de terre survenu en Californie et sur la recherche de la femme parfaite. Un mélange des genres en quelque sorte. La musique était inspirée par Joni Mitchell, dont Robert Plant et Jimmy Page étaient des fans. Le titre s'appelait à l'origine Guide to California. Et le titre final vient en fait du voyage qu'a réalisé à Los Angeles pour mixer l'album Jimmy Page et son producteur Peter Grant. Je fais au plus court pour que vous puissiez en profiter un peu.
Spend my days with a woman and kind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an aching in my heart. Someone told me there's a girl out there with love in her eyes and flowers in her hair. Chances on a big jet plane, never let them tell you that we all are the same. Oh, the sea was red and the sky was gray, one that had the horror could ever follow today. Mountains and the canyons start to tremble and shake, the children of the sun begin. Say she plays guitar and cries and sings la la la. Ride a white mare in the footsteps of dawn, trying to find a woman who's never, never, never been born. Standing on the hill in the mountain of dreams, telling myself it's not as hard, hard, hard as it seems.
Après Going to California vient When the Devil Breaks, quand la digue brise, et qui vient en fait d'un morceau de country blues écrit et enregistré pour la première fois par Kansas Joe McCoy et Memphis Minnie en 1929. Les paroles reflètent les expériences vécues lors du bouleversement provoqué par le déluge du Mississippi en 1927. Là aussi, l'essentiel est à écouter avec l'enregistrement particulier réalisé pour les percussions lourdes de John Bonham. Elles furent enregistrées dans le hall de Headley Grange à l'aide de deux microphones suspendus au-dessus du kit dans le hall d'escalier. Ce dernier avait une acoustique qui plut énormément à Jimmy Page et John Bonham.
De plus, la ligne d'enregistrement, constituée d'une ligne à retard, donne ce son assez étonnant. Là encore, j'essaye de vous en faire profiter un maximum. We'll be right back.
La semaine prochaine, je vous parlerai de Simon Garfunkel avec une sorte de best-of qui leur sera consacré.
Mais d'ici là, roulez blues!